comme les mails, les commentaires, et Jean-Manuel Trémont avec nous. À quelle occasion vous avez été à Dubaï ?
Je dois avouer que c'est à l'occasion de l'éclatement de la bulle immobilière qui faisait les beaux jours de Dubaï.
Ouais.
Parce que ça faisait longtemps que je voulais y aller, mais c'est un endroit extrêmement cher, donc je ne pouvais évidemment pas y mettre le pied. Et puis quand la bulle a éclaté, ça ne s'est pas su tout de suite, mais en revanche, moi je l'ai vu très rapidement parce que les prix des hôtels, dans certains cas, ont baissé, non pas du tiers, non pas de la moitié, mais ils ont baissé de 3 fois.
Ah bon ?
Ils ont baissé de 300% dans certains cas. Alors je me suis précipité et j'ai pu obtenir d'aller là-bas. C'est très difficile puisque camping oublié, autostop oublié. Là-bas, il faut aller dans un hôtel de résidence de longue durée, si vous voulez survivre.
Qu'est-ce que c'est que cette Dubaï ? C'est quoi ? C'est une Las Vegas en Orient, un duty-free monstrueux ? Vous parlez-vous de symbole de l'hypercapitalisme ?
Ah oui, parce que Dubaï est une petite ville, un petit émirat avec uniquement 10% de sa population qui est née là-bas et 90% sont des expatriés. Et ces gens-là viennent uniquement pour travailler, pour faire de l'argent, pour le bénéfice final, bien entendu, de leurs employeurs, mais également de la petite minorité dubaïote. Et c'est un pays qui refuse d'être un pays qui ne voudrait n'être qu'une compagnie, qu'une société, qui ne veut que faire de l'argent et rien d'autre, entre autres évidemment pour sa famille régnante. Ouais. Donc on peut dire à la fois que c'est un Las Vegas oriental sans aucun doute, mais c'est également un endroit où on essaye quelque chose qui est... La politique a disparu, il ne reste plus que l'économique.
C'est fou cette histoire.
C'est assez monstrueux quand on le voit, et incidemment, quand on est à Dubaï, on se rend compte d'une chose, on est tellement dans l'univers du seul économique qu'il n'y a pas d'enfants et il n'y a pas de vieux. Comme les gens viennent à Dubaï uniquement pour travailler, puisqu'on obtient à Dubaï qu'un visa de travail, les visas de tourisme ne sont pas très faciles à obtenir, ou alors ils sont de très très courte durée, eh bien, il n'y a quasiment pas d'enfants, il n'y a quasiment pas de vieux, il n'y a quasiment pas de handicapés, il n'y a quasiment pas de malades, il n'y a quasiment pas de fous. Il n'y a que des gens en parfaite santé, entre 25 et 50 ans, qui bossent comme des brutes.
Il y a un côté cauchemar de science-fiction. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces films de science-fiction des années 70, genre l'âge de cristal, des choses comme ça. Il y a un côté un peu comme ça. Les inutiles n'existent pas.
Il n'y a aucun inutile. J'exagère un petit peu à Dubaï, mais c'est quand même fascinant de comparer les métropoles que je connais bien avec tout ce qu'on peut voir comme mendiant, comme inutile, comme vieux. Et là, tout d'un coup, il n'y en a plus. Et incidemment, non seulement il n'y a pas d'inutile, mais il y a beaucoup moins de femmes qu'ailleurs. Il semblerait que la proportion est au minimum de 2 hommes pour une femme. Et selon certains auteurs qui connaissent très très bien Dubaï, il semblerait que la chose puisse être pire, qu'on puisse éventuellement parler de 3 femmes pour un homme. Le problème, évidemment, c'est que Dubaï ne cherche absolument pas à donner des vraies statistiques sur sa structure démographique parce qu'elles ne sont pas brillantes.
Comment 180, on apprend dans votre livre, il y a des tas de chiffres étonnants, mais il y a 180 nationalités différentes qui cohabitent à Dubaï. Qu'est-ce qui leur permet de cohabiter comme ça ? C'est l'argent ?
C'est complètement l'argent. Je cite dans mon livre « Sourate pour Dubaï », je cite dans mon livre un document ahurissant qui a été une circulaire envoyée par le gouvernement dubaïote à toutes les entreprises, qui est une espèce de code de bonne conduite où on nous raconte des choses étonnantes sur la grande hospitalité bédouine et arabe qui fait que tout le monde peut vivre à condition de se respecter les uns les autres. Mais en réalité, à nouveau, le secret est toujours le même, comme tout le monde est venu ici pour travailler. Pour travailler vite, pour travailler intensément, pour gagner énormément d'argent, on n'a pas le temps de se taper les uns sur les autres. On n'a pas le temps de se poser des problèmes religieux ou sociaux ou politiques. On est occupé par une chose et une seule, gagner beaucoup d'argent très vite. Alors ça, bien entendu, c'est le problème à la fois des expatriés occidentaux relativement riches qui se font des jobs relativement propres dans des beaux bureaux blancs. Et puis, c'est le problème des 800 000 travailleurs immigrés pakistanais, indiens, sri-lankais et népalais, qui sont là pour la même raison, mais qui, eux, triment comme des malades sur les chantiers, dans les grues, en plein cagnard. Je rappelle qu'à Dubaï, il fait fréquemment 50 degrés. et qu'on a essayé d'interdire le travail justement quand le thermomètre dépassait 50 degrés. Et ce qu'on a finalement décidé, c'est qu'on allait arrêter le travail entre 12h30 et 15h30, là où il fait le plus chaud. Mais enfin, quand même, imaginez-vous ceci. Donc tout le monde cohabite très bien parce que personne n'a le temps de penser à autre chose qu'au fait de gagner sa vie.
À vous lire et à vous écouter, moi je ne connais pas Dubaï, mais une fois j'étais à Singapour, et ça me fait penser un petit peu à ça. Je sais pas, personne ne se plaint, tout le monde joue un jeu comme ça.
Il y a une grande similitude et une grande différence entre Singapour. La grande similitude avec Singapour, c'est que là aussi c'est un endroit où on ne pense qu'au fric, où on ne vit que pour le fric. La grande différence avec Singapour, c'est que Singapour s'est peuplé par des Chinois principalement, que c'est un pays relativement homogène, qu'il y a très peu d'immigrants, et que les expatriés occidentaux sont une part considérable de la population, mais quand même très minoritaire. Ce qui est complètement fou à Dubaï, c'est qu'ils ont réussi à faire mieux, encore mieux qu'à Singapour, puisque Singapour est quand même à une vraie population avec des vrais vieux et des vraies femmes et des vrais enfants et des gens qu'il faut éduquer et dont il faut payer les problèmes. Dubaï, ils ont fait beaucoup mieux. Ils ont réussi à externaliser tous les coûts et à internaliser tous les profits pour parler la belle langue managériale. Et en conséquence, ces braves gens à Dubaï, ils ont très peu de dépenses d'éducation, ils n'ont pas de dépenses, quasiment pas de dépenses de sécurité sociale, etc. Parce que tous les gens qui sont là vont repartir dès qu'ils ont terminé de travailler. Pas question d'avoir des retraités, pas question d'avoir des gamins à éduquer.
Il n'y a pas d'impôt, ça aussi j'ai appris ça en vous lisant, il n'y a pas d'impôt ni sur le revenu, ni sur les bénéfices à Dubaï.
Oui, c'est l'astuce. Dubaï a démarré comme un petit port franc. Et la caractéristique des ports francs, c'est justement des zones d'hypercapitalisme où on laisse venir les marchandises. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une seule raison pour les attirer, c'est que justement là, on ne va pas payer d'impôts. Et finalement, Dubaï se rattrape par le fait qu'il y a eu un développement économique absolument monstrueux à cause de ça, et que des entreprises tenues par des Dubaïotes participent de ce développement économique extraordinaire. Et comme par ailleurs, ils n'ont pas les dépenses qu'ont les autres États souverains à nouveau, les hôpitaux, les lycées, etc., eh bien, ils s'en tirent extrêmement bien. Et c'est la raison pour laquelle ça permet de fonctionner comme ça.
Il y a quand même un côté, on le sent aussi quand on vous lit, il y a un côté dictature. Même si tout le monde est, même si tout le monde est consentant, il y a un pouvoir politique dur.
Alors, le pouvoir politique est à la fois extrêmement dur, mais il n'a pas besoin d'être très désagréable, parce qu'à nouveau, personne ne vient là pour réclamer quoi que ce soit.
Il n'y a pas de contestation.
Il n'y a pas de contestation pour une raison très simple. Le moment même où vous avez la malencontreuse idée de contester, la police vient vous voir, et rappelez-vous, c'est un État, c'est un émirat un peu à la mode saoudite, où il n'y a strictement aucune loi précise sur le papier, et quelques heures après, vous vous retrouvez dans un avion d'Emirates Airlines de retour dans votre pays. Et ce qui est fou, de nouveau dans mon livre, La Sourate pour Dubaï, je raconte que même des gros traders, des gros spéculateurs occidentaux, des gens absolument pététriques, eh bien, savent qu'ils peuvent être mis comme ça, mais en quelques heures, mis dans un avion, et qu'ils peuvent évidemment à ce moment-là tirer un trait définitif sur la villa qu'ils laissent derrière, sur toutes les possessions matérielles qu'ils laissent derrière, et ils ne pourront jamais revenir à Dubaï d'une part, et quant à essayer de faire jouer les tribunaux, c'est une douce plaisanterie. Le pouvoir à Dubaï, c'est une histoire de qui connaissez-vous, et est-ce que vous connaissez des gens plus puissants que votre adversaire. Et bien entendu, ça se passe très mal, par exemple, pour les 800 Chinois dont j'ai entendu parler juste dans un tout petit entrefilet. Ça faisait 4 mois que 800 ouvriers chinois n'étaient pas payés, alors qu'évidemment, ils continuaient à travailler. Alors, ils se sont révoltés. Ils sont montés sur les toits de leur immeuble. Ils ont jeté sur les policiers qui essayaient de les déloger leur lit, leur lavabo, enfin tout ce qu'on veut. Et ça s'est résolu par quelques petites promesses. Et puis petit à petit, par un groupe de 20, 40, de 50, de 60, on les a virés tranquillement. Et bien entendu, la nouvelle est apparue à nouveau, je me demande encore pourquoi, juste dans un entrefilet de, mettons, 7-8 lignes dans un seul journal. Et ça a été tout.
Mais malgré tout ça, ça a l'air très fragile. On dirait, c'est une ville de carton, Pat. On dirait qu'un jour, il va y avoir un grand coup de vent et un grand coup de sable, et puis tout ça va disparaître. Ben,
peut-être que ça va. D'abord, physiquement, c'est effectivement une ville extrêmement, extrêmement fragile. À nouveau, dans mon livre, je raconte ceci, que j'ai été invité par un jeune trader libanais plein de dynamisme et d'esprit entrepreneur. J'ai été invité chez lui. Alors d'abord, il avait beau être trader, il n'avait pu louer qu'un Kajibi 2. Attention, j'ai mesuré moi-même, j'ai mesuré un fils, moi j'ai mesuré 3 mètres sur 3 mètres.
Ouf.
Réellement, hein. J'ai vraiment mesuré. J'étais tellement sidéré. Et il payait ça quand même 1000 euros par mois. Alors c'était quand même dans un gratte-ciel, on était au 33e étage, un gratte-ciel avec un lobby en marbre, avec de l'acier partout et des beaux miroirs. Eh bien, cet appartement, il y avait du sable tout autour, à l'intérieur de l'appartement, tout près des fenêtres. Et j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y ait du sable, vous ne nettoyez pas? Il dit, non, ça rentre tous les jours, ça a été construit tellement vite et tellement mal que ça joue et le sable rentre. Et puis il m'a dit, tais-toi. Je me suis tu. Écoute, j'ai écouté, et qu'est-ce que j'ai entendu? Ça jouait en permanence. Les différentiels thermiques entre le soleil, le vent, la hauteur, etc. Et donc ça faisait jouer tout ça, et ça expliquait qu'il y avait des fentes partout par lesquelles le sable rentrait. Et également, toujours dans mon bouquin Sourate pour Dubaï, j'ai interviewé une architecte qui m'a dit, qui était polonaise, et qui m'a dit, moi on m'avait engagé parce que je suis polonaise et que je coûte pas cher, et l'obsession du promoteur immobilier des 7 gratte-ciels que je construisais, c'était, il fallait que ça ait l'air cher, mais il fallait surtout que ça ne soit pas cher. Donc, il est effectivement très probable que 40, 50, 60, 70% des constructions qui sont construites à toute allure en ce moment à Dubaï, dans 30, 40, 50 ans, il va falloir détruire pour reconstruire parce que ça ne tiendra plus debout.
Jean-Manuel Trémon, le livre donc s'appelle Sourate pour Dubaï. La maison d'édition, c'est l'atelier de création libertaire. Et vraiment, je vous le conseille parce qu'on apprend énormément de choses et c'est écrit dans un style assez détaché et plein d'humour. Merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup. Juste un petit détail.
Oui.
Il vaut mieux le commander sur Internet. C'est une toute petite maison d'anarchie, édition anarchiste qui diffuse, c'est très très peu durée. Donc regardez plutôt sur Internet. En tout cas, merci de m'avoir
permis
de parler de cet excellent endroit.
Merci, c'est très bien en tout cas. Et donc on a mis le lien sur le site de l'émission pour les auditeurs.
Splendide, merci.
Merci, à très bientôt.